VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Conflit en Libye, l'Union européenne a condamné ce mercredi l'attaque perpétrée contre un centre pour migrants près de Tripoli, où une quarantaine de personnes ont été tuées, au moins 70 blessées par une frappe aérienne attribuée aux forces de Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est de la Libye, engagé dans une offensive contre la capitale libyenne. L'Union européenne s'associe à l'appel lancé à l'ONU pour qu'elle mène immédiatement une enquête sur les auteurs de cet horrible attentat, a déclaré la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, dans un communiqué. L'ancienne ministre italienne a qualifié d'inacceptable la violence contre les civils et elle a souligné que l'attaque démontre une fois de plus la nécessité d'un cessez-le-feu dans le conflit libyen. Toujours concernant l'Union européenne, après des discussions longues et laborieuses, les dirigeants européens se sont finalement mis d'accord sur ceux qui vont diriger l'organisation. Le Premier ministre belge Charles Michel hérite de la présidence du Conseil et deux femmes seront à la Commission et à la Banque centrale européenne. Plus de détails avec Abdourahmane Dia.
Charles Michel a été choisi pour succéder à Donald Tusk à la tête du Conseil européen. Ursula von der Leyen, 60 ans, est ministre allemande de la Défense. Elle va succéder au luxembourgeois Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission européenne. La Française Christine Lagarde, 63 ans, est nominée pour prendre la tête de la Banque centrale européenne. La patronne du FMI va devenir la première femme à prendre la tête de la Banque centrale européenne pour 8 ans. Cependant, toutes ces nominations devront être confirmées par le Parlement européen.
Retour en Afrique maintenant, en Algérie, poursuite du mouvement de contestation. Mouad Bouchareb, président de l'Assemblée populaire nationale, la chambre basse du Parlement, a remis sa démission. Il était l'une des cibles principales de la contestation dont le pays est le théâtre depuis février et qui réclame la fin du système au pouvoir. Le point avec Raïssa Girondin.
Mouad Bouchareb a démissionné hier matin de son poste de président de la Chambre basse, a dit Abdelhamin Siafif, le président de la Commission des Affaires étrangères. Le bureau de l'Assemblée s'est réuni et a déclaré la vacance du poste, a-t-il ajouté. Aucun motif officiel n'a été fourni sur cette démission. Bien qu'occupant une fonction moins exposée, Mouad Bouchareb faisait partie, avec le chef de l'État par intérim Abdelkader Ben Salah, le premier ministre Nourdine Bédoui et l'ex-président du Conseil constitutionnel Tayeb Belaïse, des 4B dont les contestataires réclament le départ depuis la démission en avril du président Abdelaziz Bouteflika. Ancien chef du groupe parlementaire du Front de Libération Nationale, Mouad Bouchareb, 47 ans, avait été élu fin 2018 après un coup de force contre son prédécesseur, Saïd Bouhadja, lui aussi membre du FLN.
Contestation au Soudan, une délégation de la Ligue arabe est arrivée ce mercredi à Khartoum pour soutenir la reprise du dialogue entre les dirigeants militaires du pays et les leaders de la contestation qui réclament le transfert du pouvoir aux civils. Des médiateurs de l'Éthiopie et de l'Union africaine avaient déjà annoncé hier avoir invité les généraux au pouvoir et la contestation à reprendre les négociations aujourd'hui. Objectif, définir les grandes lignes de la transition. Irénée Armanongbo.
Nous avons invité les deux parties à se réunir. Un lieu et une heure ont été déterminés pour eux, a indiqué le médiateur de l'Union africaine, Mohamed El Hassen Lebad. L'Éthiopie et l'Union africaine ont rédigé un plan qui définit les grandes lignes de la transition. Le document a été présenté aux deux parties qui l'ont approuvé, a indiqué M. Lebad. Ce nouveau plan prévoit un conseil souverain constitué de 8 civils et de 7 militaires. Sur les 8 civils, 7 seront issus de l'Alliance pour la liberté et le changement, tandis que le dernier sera choisi par les deux camps. Le Conseil souverain sera présidé par un des militaires pendant 18 mois avant qu'un civil ne prenne la relève dans une transition de 3 ans. Dimanche, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs villes pour le transfert du pouvoir aux civils. La contestation a de nouveau appelé à la désobéissance civile le 14 juillet dans tout le pays.
politique en Mauritanie. Des partisans de l'opposition arrêtés lors de heurts à la suite de l'élection présidentielle du 22 juin ont été libérés mardi, au lendemain de la proclamation officielle de la victoire du candidat du pouvoir. Les quatre candidats de l'opposition, eux, continuent de contester l'élection au premier tour de l'ancien chef d'état-major Mohamed Cheikh El Ghazouani, proclamé lundi par le Conseil constitutionnel. Mais ces leaders d'opposition ont souligné dans un communiqué conjoint hier leur disponibilité à contribuer à faire sortir le pays de la crise politique actuelle par le dialogue.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Politique au Gabon, le tribunal correctionnel de Libreville a requis mardi soir 10 ans de prison contre l'ancien député Bertrand Zibi Abégué, accusé d'être impliqué dans les violences post-électorales d'août 2016. Bertrand Zibi, député du Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir, en avait démissionné avec fracas au cours d'une réunion publique en présence du président Ali Bongo Ondimba en juillet 2016. Une sortie très médiatisée, juste un mois avant la présidentielle du 27 août 2016, qui a abouti à la réélection contestée du chef de l'État. Le député démissionnaire avait été arrêté le 31 août 2016 au siège du candidat de l'opposition, Jean Ping, lors des graves violences post-électorales qui avaient fait suite aux élections. Relation Rwanda-Ouganda maintenant. Trois ONG installées en Ouganda ont porté plainte devant la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est pour demander que l'Ouganda et le Rwanda dédommagent financièrement tous ceux qui sont pénalisés par la fermeture partielle de la frontière entre les deux pays. Le point avec Lionel Gaïma.
Le Rwanda interdit depuis le 27 février à ses ressortissants de traverser la frontière, qui est également fermée aux Ougandais. Quatre mois plus tard, le poste frontière de Gatuna à Katuna est toujours fermé sur une route commerciale essentielle de la région. Trois organisations de la société civile, l'Institut Est-Africain pour le commerce et les négociations, l'Initiative Est-Africaine pour l'avancement des femmes et le Centre Ougandais pour le droit de la nourriture et aux conditions de vie adéquates, ont déposé une plainte le 21 juin devant la Cour des États de l'Afrique de l'Est, qui doit fixer une date pour la première audience. Sheila Kawamara, directrice exécutive de l'Initiative Est-Africaine pour l'avancement des femmes.
Le procès contre les deux gouvernements a pour but de s'assurer que les pertes encourues par ceux qui vivent du commerce, les agriculteurs, les citoyens et la société dans son ensemble fassent l'objet d'un audit et que les parties concernées soient dédommagées de manière adéquate.
Hassan Semiraho faisait du commerce transfrontalier depuis 10 ans, exportant de graines, des haricots et de la farine vers le Rwanda. Maintenant, ses affaires subissent de plein fouet les effets de la fermeture de la frontière.
Du côté rwandais, on leur permet de ramener leurs produits chez eux. Mais de notre côté, même si vous revenez de la douane rwandaise avec quelques sacs de haricots, on ne vous permet pas de les faire entrer dans notre pays. Si le gouvernement peut faire quelque chose, je pense qu'il devrait nous dédommager.
En juin, le Rwanda a rouvert sa frontière aux camions pour seulement 12 jours. D'après le ministère ougandais du commerce, les exportations vers le Rwanda ont chuté de 860 millions de dollars jusqu'à quelque 200 millions de dollars depuis la fermeture de la frontière. Kigali signale des pertes de l'ordre de 54 millions de dollars. Amelia Kiambadé, ministre ougandais du commerce et de l'industrie.
Je conseillerais aux Ougandais d'essayer d'autres routes. À un moment donné, j'avais même suggéré la RDC, mais là-bas aussi, nous avons le virus Ebola. Mais nous continuons les discussions de haut niveau avec le Rwanda.
Les tensions entre le président rwandais Paul Kagame et son homologue ougandais Yoweri Museveni, autrefois proches alliés, se sont aggravées ces derniers mois, les deux pays s'accusant mutuellement d'ingérence politique et d'espionnage.
En Afrique du Sud, le parti de la gauche radicale de Julius Malema, les combattants pour la liberté économique, a annoncé mardi la fin de la coalition qu'il formait avec la principale formation d'opposition, l'Alliance démocratique, coalition à la tête de plusieurs grandes villes du pays. Et puis le Nigeria, première économie d'Afrique et premier marché du continent avec 190 millions d'habitants, a finalement annoncé qu'il signerait l'accord de libre-échange continental au sommet de l'Union africaine ce week-end à Niamey au Niger. Le Nigeria signe cet accord après de multiples consultations de spécialistes locaux, affirme la présidence nigériane en soulignant que la priorité désormais sera de mener des négociations pour garantir des garde-fous contre la contrebande, le dumping social et d'autres menaces économiques. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.